France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Gabriel Oliver Aguillon.
Bonjour Louis Langré.
Bonjour Gabriel, bonjour. Merci de m'offrir l'occasion de parler un peu de ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique.
Eh bien, vous êtes avec nous sur France Musique dans le cadre de cette journée américaine. Louis Langré, vous êtes directeur musical de l'Orchestre Symphonique de Cincinnati depuis 2013. Alors Cincinnati, on va peut-être situer la ville quelque part dans le Midwest, au sud-est d'Indianapolis, au sud de Détroit et Cleveland. Louis Langré, depuis quelques jours, la France est reconfinée pour 4 semaines au moins. Nous sommes à quelques heures maintenant, ce matin, des résultats de l'élection présidentielle aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. Dans quel état d'esprit êtes-vous là, en tant que Français, aux États-Unis, Louis Langré?
Très tendu. Quelle que soit l'issue du scrutin, ça va être difficile. Personnellement, pour moi, si Trump est réélu, c'est une catastrophe. Mais s'il perd les élections, il y aura tellement d'Américains qui refuseront le résultat des élections que ça risque de créer beaucoup de problèmes aussi. Mais on verra. Je croise les doigts et le peuple américain est plein de ressources, c'est plein de contrastes aussi. Moi, j'ai eu une chance énorme parce qu'en plus d'être directeur musical de l'orchestre de Cincinnati, je suis directeur musical du Mostly Mozart Festival au Lincoln Center à New York depuis 2003. Donc, j'ai vu défiler pas mal de présidents et c'est un pays qui peut offrir le meilleur et j'ai eu la chance vraiment de vivre le meilleur de ce qu'a ce pays qui peut être tellement généreux, imaginatif, courageux, accueillant. Là, en ce moment, je crois que je vis un peu le contraire de tout ça. Donc, j'espère.
Louis Langré, vous parliez vous êtes là-bas aux États-Unis depuis plusieurs années. Est-ce que vraiment vous sentez les répercussions directes envers la vie économique, le modèle économique de votre orchestre Cincinnati ou bien du festival dont vous parliez avec les différents présidents qui ont exercé depuis votre présence là-bas?
Pas vraiment les présidents, parce que le pays est tellement grand. Je veux dire, ce sont surtout les États et pour des institutions culturelles, je veux dire, ce sont les mécènes, ce sont les donateurs, ce sont les abonnés, c'est le public. Il y a ce sentiment très fort aux États-Unis d'être responsable, d'avoir sa place dans le groupe et donc d'aider les institutions culturelles, d'aider les écoles publiques, d'aider ou privées parfois d'ailleurs aussi, d'aider les universités, les hôpitaux, etc. Donc c'est tout à fait différent. Mais ce qui est clair, c'est que les tensions en ce moment, alors il y a la tension évidemment de cette terrible pandémie, mais à quoi viennent s'ajouter les tensions politiques, sociales, économiques, financières et raciales aussi. Et j'espère de tout cœur que ça va peu à peu s'arranger, peu à peu s'apaiser, mais ça prendra du temps.
Et une vie musicale qui est quasiment à l'arrêt. Nous allons continuer à en parler avec vous, Louis Langré. Mais d'abord, vous écoutez dans un extrait du dernier disque avec l'Orchestre Symphonique de Cincinnati, paru l'an dernier, le 3e mouvement Allegretto de la Symphonie numéro 1 de Stravinsky et vous-même, Louis Langré, à la direction. À l'instant sur France Musique, le troisième mouvement Allegretto de la première symphonie de Stravinsky, interprété par l'Orchestre symphonique de Cincinnati, dirigé par notre invité ce matin, Louis Langré, en direct de Cincinnati avec nous. Louis Langré, vous êtes donc directeur musical de cet orchestre depuis 7 ans maintenant. L'annonce est tombée, vous avez officialisé l'annulation de toutes les représentations, au moins jusqu'en janvier de l'année prochaine, Louis Langré.
Oui, oui, les salles sont fermées, mais après il y a deux attitudes et il y a des orchestres ou même des opéras qui ont tout annulé.
Le Metropolitan Opera de New York.
Metropolitan Opera de New York de la mi-mars jusqu'à septembre de l'année prochaine.
En 2021.
Ça veut dire que les chœurs, les musiciens ne joueront pas, ne répéteront pas ensemble pendant un an et demi. C'est évidemment une catastrophe. Non seulement ils ne jouent pas, mais ils ne sont pas payés. Et les indemnités de chômage ne représentent même pas un quart de ce qu'ils gagnent.
Et en plus,
donc,
là-bas, il n'y a pas de statut d'intermittent. Il n'y a pas de protection sociale.
Absolument.
Est-ce que vous, on entend aussi complètement que certains musiciens pensent quitter cette profession parce que la situation est devenue trop difficile ou bien avoir pourquoi pas un boulot alimentaire, un deuxième emploi? Vous l'entendez vous-même autour de vous?
Absolument. Alors, pas à Cincinnati, mais au Met, plus du tiers des musiciens ont quitté la ville parce qu'ils ne peuvent pas payer leur appartement, etc. Et qu'ils ne reviendront pas.
Comment vous, là, vous vivez? Comment vous remplissez votre frigo, vous-même, Louis Langré, et puis vos musiciens, là, concrètement? On sait qu'il y a quelques répétitions qui ont lieu actuellement pour un concert en ligne qui sera visible sur le site de votre orchestre à partir de fin novembre. Mais qu'en est-il concrètement, au jour le jour, de votre du financement de l'orchestre et puis de la rémunération des musiciens?
Moi, je suis soumis aux règles de tout intermittent, c'est-à-dire que je ne suis pas payé quand je dirige pas, et tous mes concerts annulés avec le Chicago Symphony, avec l'Orchestre de Philadelphie, avec l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles, le Symphonique de San Francisco, etc. Évidemment, ils ne me payent pas. Ils ne peuvent pas, de toute façon. J'ai la chance de garder pour Cincinnati la partie de directeur musical, où là, je suis payé, donc je suis pas à la rue, et c'est énorme par rapport à tant d'orchestres qui ont mis la clé sous la porte, hein. Indianapolis, Nashville, tous ces orchestres ont fermé et ne payent plus leurs musiciens. Nous leur demandons un effort financier qu'ils acceptent. Ils acceptent aussi des conditions de travail tout à fait différentes. Ils acceptent de travailler 3 services par jour dans la mesure où les services sont réduits, parce que chaque fois que vous changez de formation musicale, vous devez vider la salle, en tout cas la scène, de tous les pupitres, chaises, etc. Il faut tout désinfecter, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai la chance, et je la mesure vraiment aujourd'hui ici, d'avoir toute une équipe artistique, pour les musiciens, administratives et techniques, où chacun se bat pour conserver ce lien qui existe entre nous et le public. Et puis il y a des mécènes, effectivement ça tout fonctionne par le mécénat ici, et il y a des gens d'une générosité absolument exceptionnelle, parce qu'évidemment quand la bourse s'effondre, ça crispe la générosité des gens qui vivent avec beaucoup plus d'inquiétude. Mais on a un couple de personnes âgées, par exemple, qui voulait absolument donner l'exemple et qui nous a donné $1 million. C'est des témoignages de générosité, d'affection et aussi ce sentiment de responsabilité qu'ont beaucoup de gens ici, c'est-à-dire on ne doit pas laisser tomber nos institutions.
C'est un vrai acte de soutien de leur part.
C'est un acte citoyen, absolument.
sur France Musique la voix de la soprano Véronique Jeans avec l'orchestre de l'Opéra National de Lyon sous la direction de Louis Langré dans cette mélodie Zaïd pour soprano et orchestre de Berlioz, un orchestre Louis Langré que vous connaissez bien puisque vous en avez été le directeur musical autour des années 2000. Vous êtes avec nous depuis Cincinnati aux États-Unis. En ce jour des élections, nous attendons les résultats. En ce jour justement où tous les Américains vont voter et puis déjà plus de 70 millions l'ont fait déjà, est-ce que vous comptez vraiment sur cette élection pour y voir plus clair, pour plus d'espoir pour la culture en général aux États-Unis?
Pour la culture, pour tout en fait. Le pays est tellement clivé en ce moment. Alors c'est tout le système politique des États-Unis. Hein. Vous n'avez que deux partis donc qui s'opposent et on a bien vu pendant les débats, c'était pas deux adversaires, c'était presque deux ennemis.
Oui, c'est très violent.
Les gens ne s'écoutent plus. Je veux dire, c'est des deux côtés. Alors évidemment, chacun va choisir son côté. Mais un orchestre, c'est l'inverse de ça. Et donc, on a un rôle, là aussi, un rôle presque humaniste. Je veux dire, des musiciens qui jouent les uns à côté des autres ou les uns contre les autres et qui ne s'écoutent pas, c'est plus de la musique. Mmh. C'est faire des notes ensemble. La musique, c'est autre chose. Ça demande de l'écoute, ça de mutuel, ça demande d'être inspiré par l'autre et d'inspirer les autres. C'est une école un modèle de vivre ensemble. Et malheureusement, c'est pas ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Et évidemment, je me tiens au courant de ce qui se passe en France. Et quand on compare avec la situation aux États-Unis, mais il faut que les Français mesurent la chance incroyable qu'ils ont de vivre en France. Quel autre pays au monde protège autant ? C'est énorme. Ici, c'est un peu la jungle, sauf qui peut. Alors, à Cincinnati, l'orchestre, pas que l'orchestre, d'ailleurs, toutes les institutions culturelles font tout ce qu'ils peuvent pour maintenir un lien social, et évidemment le racisme cette crise après l'assassinat de George Floyd pose tellement de questions et les institutions culturelles doivent apporter des réponses parce que trop souvent la culture est vue comme des institutions blanches pour un public blanc, financé par de riches blancs. Évidemment, la musique, c'est l'inverse de ça. La musique, c'est la fraternité. La musique, c'est le partage. La musique, c'est la liberté, égalité, fraternité. Sans cela, c'est pas possible. Donc, il y a tellement de problèmes à résoudre, mais ça se fera pas en une génération. Ça se fera pas. D'ailleurs, c'est pas un problème musical. C'est pas un problème d'orchestre. C'est un problème de cette société tellement complexe, tellement formidable aussi. J'ai vécu des expériences magnifiques.
L'Orchestre symphonique de Cincinnati est l'un des orchestres américains les plus vieux. Il a été fondé en 1893, dirigé par Richard Strauss ou plus récemment Paavo Järvi jusqu'en 2011. Quelle couleur, quelle sonorité y trouvez-vous? Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, Louis Langré, donc en tant que Français?
Cincinnati est une ville de forte immigration allemande à la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc, c'est vrai que Richard Strauss est venu plusieurs fois. C'est un orchestre qui a donné les créations américaines des 3e et 5e symphonies de Mahler. Et puis, mais il y a aussi Edward Elgar, Respighi, etc., qui sont venus les diriger. Et Camille Saint-Saëns est venu à Cincinnati, André Messager est venu à Cincinnati, Scriabine est venu. Enfin, il y a une vie musicale, une effervescence extraordinaire. D'ailleurs, on continue toujours. Moi, j'ai dirigé des dizaines de créations. On a fait des commandes d'œuvres. Nous avons, depuis cette saison, un creative partner, un partenaire créatif qui est Matthias Pincher, que, évidemment, les Français connaissent bien puisqu'il est directeur musical de l'ensemble intercontemporain. Et donc, il y a cette vitalité, cette force de création.
C'est un lieu d'expérimentation.
Oui. Oui. Toute grande institution doit être un lieu d'expérimentation et de partage. Les musiciens doivent jouer les symphonies de Beethoven comme si c'était de la musique contemporaine. Et quand John Adams vient les diriger, comme si c'était des œuvres du répertoire. D'ailleurs, ça devient des œuvres du répertoire.
Un beau réveil avec France Musique et ce presto du premier concerto pour violon en si bémol majeur que Schell 207 de Mozart avec l'orchestre de chambre d'Écosse, Renaud Capuçon au violon solo et Louis Langré à la direction. Nous sommes en ligne avec Louis Langré depuis Cincinnati au téléphone avec nous. Au niveau des mécènes, on imagine, comme vous nous parliez tout à l'heure, d'une femme qui a donné $1 million à votre orchestre, et puis il y a de nombreuses familles comme ça dans la ville. Est-ce qu'ils ont un mot à dire, un rôle dans le choix des œuvres et des compositeurs joués? On pourrait imaginer qu'il y a moins de prise de risque dans le répertoire interprété, et puis en fait, peut-être pas du tout.
Le soutien de la communauté musicale est quelque chose d'absolument formidable, et leur curiosité aussi. Effectivement, j'imaginais que ce qu'on m'avait dit, ah, mais tu devras diriger uniquement Carmina Burana, la 9e de Beethoven et le Requiem de Verdi. C'est totalement faux. Je n'ai jamais autant dirigé de musique contemporaine de ma vie. J'ai commandé des dizaines d'œuvres et dirigé aussi, hein, depuis que je suis là. Nous avons maintenant Matthias Pinscher avec nous, et alors évidemment il va diriger du Mahler, etc., mais il va aussi écrire pour nous.
On voit par exemple dans votre programme de ce concert virtuel qui sera visible sur votre site à partir de fin novembre, Julia Perry, compositrice du XXe siècle, Schubert, oui, mais aussi un compositeur né en 1951, Anthony Davis, au programme effectivement oui. De la découverte aussi pour nous.
Pour moi aussi. Pour moi aussi, c'était une découverte et c'était une belle découverte. C'est une œuvre artistique très forte et c'est une œuvre politique aussi. Et je crois qu'en ce moment, on a besoin de ça. On n'a pas besoin de musique pour se divertir, c'est pas le moment. On a besoin de musique pour nous élever, on a besoin de musique qui nous raconte quelque chose de plus grand que la musique elle-même.
Louis Langrée, vous deviez vous-même venir en France à la scène musicale le 22 novembre avec la Camerata de Salzbourg et Sol Gabetta en violoncelle soliste, annulé. Et puis on va y croire quand même, le 20 décembre est prévu un concert avec David Cadouche au piano et l'orchestre des Champs-Élysées. Sont prévues également des représentations d'Idoménée de Mozart au Staatsoper de Berlin en janvier avec entre autres Léa Desandré. Vous prévoyez quand même de venir en France, à Berlin, en Europe, vous l'espérez?
Ah oui, oui, oui. Je n'ai pas dirigé de concert public depuis début mars. Et j'attends ce moment. J'attendais tellement de retrouver mes amis de la Camerata Salzburg et pour cette petite tournée en Allemagne et en France. Et voilà, ça tombe à l'eau.
Dernière question, Louis Langrée, votre contrat à Cincinnati a été prolongé jusqu'en 2022 et puis au Mostly Mozart Festival à New York jusqu'en 2023. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous voulez rester encore là-bas ou est-ce que l'Europe vous attire peut-être d'autant plus, peut-être au niveau personnel, au niveau de la sécurité sociale et puis même en tant que musicien professionnel? Comment vous imaginez les années à venir?
Alors, Cincinnati, maintenant, j'ai été encore reconduit, donc ça se... J'ai un contrat qui va jusqu'en 2024 maintenant. Oui, peut-être que je ne me suis jamais senti autant français que depuis que j'habite aux États-Unis. On est du pays d'où on est né et la France est mon pays. J'y reviendrai.
Merci beaucoup, Louis Langrée, un Français à Cincinnati ou encore un Américain à Paris de Gershwin. Le voici avec votre orchestre symphonique de Cincinnati. Très belle journée, Louis Langrée. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Cincinnati en ce jour des élections présidentielles aux États-Unis. Au revoir.
Au revoir, merci beaucoup. On croise les doigts pour l'élection présidentielle d'aujourd'hui et pour qu'une aube nouvelle arrive.
un Américain à Paris, signé George Gershwin, avec Louis Langrée à la tête de l'Orchestre Symphonique de Cincinnati.
À réécouter sur francemusique.fr.